Donc nous avons demandé à Hervé Le Treut, donc directeur de l'Institut Pierre Simon Laplace, de faire un point, de faire l'introduction sur la thématique des incertitudes sur le changement climatique, de façon à avoir une vue générale sur les différents niveaux d'incertitude. Puis après nous rentrerons avec d'autres exposés plus, sur des points plus spécifiques. Merci Hervé.
Voilà, donc en fait c'est vrai que c'est à la fois 40 minutes, on attend de parler de
ça. Ces...
Oui. De ces problèmes d'incertitude. En même temps, c'est vrai qu'en en essayant de balayer l'ensemble des incertitudes auxquelles on est confronté, il y a un risque un peu de papillonner entre tout un ensemble de choses qui sont de nature assez différente. Je pense que c'est une des caractéristiques du problème auquel on est confronté, c'est d'additionner des formes d'incertitude qui sont très différentes. J'ajouterais que ce problème de l'incertitude, effectivement, il est bien sûr de nature scientifique. On a tous été confrontés à la communication, soit avec des grands publics, soit avec des médias, soit avec des décideurs, un peu moins d'ailleurs. Et c'est ce problème de comment transmettre les incertitudes, c'est toujours un problème délicat. Ce que j'ai essayé de résumer dans le titre, c'est-à-dire que on a à la fois, alors, je ne sais pas si beaucoup de certitudes finalement, on verra que c'est des vraies certitudes, peut-être pas tant que ça, mais on a beaucoup on a des certitudes importantes en tout cas, on a beaucoup d'incertitudes, et c'est très difficile de donner un message qui soit équilibré entre les deux. Alors, bon, j'ai toujours l'habitude de commencer les exposés que je fais généralement par ce diagramme qui montre la rupture brutale des échelles de temps associées aux émissions de gaz à effet de serre. 10 000 ans, c'est là. On voit une stabilité très grande de ces trois gaz à effet de serre. Et la rupture, elle est très claire à la fin. Ce qui est peut-être moins mis en avant, je pense, souvent, c'est le fait que cette rupture, et c'est le sens du diagramme, du petit diagramme où on a 200 ans et on voit l'augmentation des gaz à effet de serre qui vraiment s'envole après la Deuxième Guerre mondiale, on est face à un problème où, en fait, l'augmentation des gaz à effet de serre, bien sûr, elle commence avec l'époque pré-industrielle, mais elle commence surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on le voit, j'ai montré sur deux diagrammes. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre. C'est un diagramme de l'Agence internationale pour l'énergie, où vous voyez les émissions. Donc en fait, les émissions de CO2 mesurées en milliards de tonnes de carbone, en gigatonnes de carbone par an. Et ce que vous voyez, c'est que c'est vraiment à partir des années 50, et il s'agit de ce qui est lié à la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel, que les choses s'envolent. Donc on est dans une phase où cette augmentation, finalement, est très récente. Ce que disent les spécialistes du cycle du carbone, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone. Les 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone, on les a dépassées dans les années 70 à peu près, mais il n'y a pas très longtemps, sachant que le système climatique, il a aussi une inertie qui fait qu'il faut quelques dizaines d'années pour que le réchauffement soit au moins, peut-être pas beaucoup de dizaines d'années, mais quelques dizaines d'années pour que le réchauffement se fasse sentir dans les couches superficielles de l'océan. Donc on est face à un phénomène nouveau. Et on est aussi face à un problème qui est un problème qui s'est accéléré de manière dans les dernières décennies. Si on regarde les émissions de CO2 cette fois, entre les années 90 et 2010, c'est-à-dire sur une période de 20 ans, on a encore 3 milliards de tonnes de carbone en plus qui ont été émis. Donc, et ça, c'est la part des pays émergents qui s'ajoute à celle des pays... qui continue d'émettre. Donc ça, c'est des certitudes. On est face à un problème qui s'emballe et qui ne s'emballe pas depuis très longtemps et qu'on n'a pas beaucoup en fait, d'outils pour diagnostiquer réellement parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qui peut se produire, c'est quand même du très récent et les évolutions qu'on peut essayer de caractériser sont des évolutions qui sont récentes. Le moment où on peut imaginer qu'un signal anthropique se dégage du signal des fluctuations naturelles, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années, et on l'a bien vu, entre les premiers rapports du GIEC et les derniers rapports du GIEC, il y a une différence de tonalité qui tient justement à ça. Donc je pense que quelque chose qui est important quand on parle d'incertitude, c'est d'insister sur ce caractère nouveau de ce qu'on regarde, qui fait que les statistiques, le regard rétrospectif est un regard qui est limité, et donc ce qui va aussi donner une part d'incertitude très forte. C'est d'autant plus limité, on verra que l'action de l'homme sur le climat ne se limite pas au CO2, il y a aussi les aérosols qui refroidissent, Et donc, c'est très difficile d'étudier et de caractériser les évolutions actuelles. On a besoin d'un autre regard sur ce qui peut se passer. Alors, pour juste ne pas rester dans le domaine météo, j'ai pris ce transparent à Philippe Sier. Alors, les chiffres qui sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. Non, je vais quand même prendre ça parce que c'est quand même difficile.
Tu montres le bouton et t'attends que ce soit vert.
Oui, c'est vert. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'augmentation mesurée du CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'il aurait été sans le cycle du carbone, qui reprend une partie du CO2 sous forme de. Par la végétation, sous forme d'absorption dans les océans. Alors, ça, on peut voir ça comme un service que rend la nature, c'est-à-dire qu'elle empêche une partie du CO2 d'entrer dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment une vision de climatologue, parce que ce service-là, ce service qui consiste à mettre en fait une partie du CO2 dans l'océan ou une partie dans la végétation, vu de la du domaine de la biodiversité, ou vu du problème de l'océan et de l'acidification des océans, c'est pas un service que la nature rend de manière gratuite. Il y a des modifications qui sont importantes dans ces milieux-là et qu'on a eu souvent tendance un tout petit peu à négliger et minorer dans le monde du climatologue en regardant les enjeux du changement climatique uniquement sur la part qui reste dans l'atmosphère. Et ces domaines-là sont aussi des domaines qui sont affectés par l'augmentation du CO2 et par la combustion, enfin par l'augmentation du CO2, ou passage transitoire du CO2 dans l'atmosphère, et qui pour lesquels on a aussi des incertitudes très fortes, dont je ne parlerai pas. Je vais peut-être sauter ce diagramme pour. Alors maintenant, je vais dire un mot des scénarios que la communauté a réalisés à partir des années en fait la fin des années 90. Et puis j'essaierai à partir de ça de caractériser ce qui pour moi fait l'objet d'un consensus qui finalement est limité à un petit nombre de choses très limitées en termes de physique, et puis tout ce qui reste encore du domaine de l'incertitude. Alors il y a bien sûr en amont de tous nos scénarios des incertitudes qui sont des incertitudes de type économique, du type qu'est-ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre. Pas rentrer là-dedans, je dirais que des choses un petit peu convenues. On a le GIEC avait d'abord opéré un travail consistant à déterminer des scénarios références. Alors l'attitude dans le dernier rapport du GIEC était différente, était de choisir des objectifs en termes de watts par mètre carré à ne pas dépasser. Ces scénarios références sont quand même quelque chose qui sont restés très très qui ont marqué 10 ans d'histoire de nos disciplines, et c'est des références qui restent quand même dans les esprits. Le scénario vert ici, le scénario B1, c'est un scénario finalement qui était le scénario le plus optimiste. Si on ne faisait rien, on stabilisait les émissions. En plus, ce scénario ici, c'est le scénario FI, Fossil Intensive, où on brûle beaucoup de CO2. Il y a toujours une étape quand on passe de ça, ces scénarios d'émission, et c'était fait pour tous les gaz, à la concentration atmosphérique, et cette étape, elle a aussi ses incertitudes. C'est de traduire ça en concentration atmosphérique. Et vous voyez qu'aucun de ces scénarios n'est un scénario d'équilibre. Et c'est même le scénario vert, il faudrait diminuer les émissions pour revenir aux 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone dont je parlais. Si on ne le fait pas, on a des émissions qui augmentent. Donc on a ces scénarios, on sait qu'on est plutôt en train de suivre les courbes rapides. Et on a un réchauffement, et ce réchauffement, les modèles essaient de l'évaluer. Et la première courbe qui a été largement reprise dans les médias, au point que la fourchette en question était venue à un moment un objet difficile à toucher au niveau médiatique, la fourchette qui dit qu'en 2100, on aura un réchauffement d'un peu moins de 2 degrés, un peu plus de 6 degrés. Alors il y a un mélange d'incertitudes liées au modèle, d'incertitudes liées au scénario. Fourchette pour le scénario vert n'est pas la même que pour le scénario rouge pointillé. Et cette fourchette-là est devenue effectivement quelque chose qui est resté comme une appréhension du problème à laquelle les médias, les décideurs ont fait référence pendant beaucoup d'années et qui était très difficile à toucher, à tel point que pour le rapport suivant du GIEC, le quatrième rapport du GIEC, il y avait d'abord eu la tendance à se limiter sur quelques scénarios pour bien regarder l'incertitude entre les modèles, et du coup les valeurs plus hautes ici disparaissaient des exercices, et ça a été très difficile à comprendre. Ces scénarios ici ne sont pas des scénarios qui sont des scénarios extrêmes. Il n'a jamais été dit que le scénario vert est un scénario le plus bas possible, même si en fait on est en train d'aller plus vite. Il n'a jamais été dit que le scénario rouge pointillé est aussi le scénario le plus extrême possible. C'est des scénarios possibles. Cette notion de scénario possible, le scénario où on explore des futurs possibles, s'est heurté toujours avec une vision où cet exercice devait donner une valeur minimale, une valeur maximale. Et donc il y a un problème de traduction de ce que veut dire un exercice comme celui-là, qui est très difficile, qui justifie, je pense, le fait qu'une des justifications pour lesquelles le GIEC est revenu sous un format très différent d'exercice des scénarios. Alors, dans les choses qui font l'objet d'un consensus, et je ne vais pas parler de tout, mais bon, il y a d'abord, et depuis toujours, depuis les premières expériences de simulation du climat dans les années 70, il y a la structure globale du réchauffement. Cette structure globale du réchauffement, elle est celle qu'on retrouve ici. Alors, vous avez deux échéances, on émet plus de gaz à effet de serre quand on va vers le bas, mais je ne vais pas trop commenter ces éléments-là. Vous avez plus de réchauffement sur les continents, parce que les océans, ils ont eu leur inertie, ils ont aussi un phénomène qui ajoute à l'inertie, qui est l'évaporation. Et puis, quand on est à plus haute latitude, on a aussi une stabilité de la colonne d'air un peu plus grande, qui fait que le réchauffement a tendance à se confiner au sol, puis vous avez des rétroactions propres aux hautes latitudes. Et ça, je n'ai pas réimprimé les cartes, mais des modèles très simples, avec une couche limite océanique qu'on pouvait faire dans les années 80, voire 70, c'est une structure qui était déjà comprise. Et cette structure qui est déjà comprise, c'est aussi celle qui emporte un peu l'adhésion en termes de changement climatique. Quand on dit qu'il y a 80% de chances que le changement climatique soit d'origine anthropique, alors j'étais un peu paresseux, j'ai gardé cette transparence, c'est 15 ans qui sont pas les plus récents maintenant, moins 30 ans d'après-guerre, bon, on retrouve dans ce réchauffement la structure que j'indiquais, et ensuite ce qui a été fait, alors c'était 90%, je crois, le chiffre exact donné par le GIEC, la quantification qui est faite, c'est est-ce qu'on peut retrouver ce type de réchauffement autour de fluctuations naturelles, en essayant de caractériser les fluctuations naturelles au mieux de ce qu'on peut, et la réponse étant, effectivement, il y a 10% de chance, donc on est face à un système qui a probablement une origine anthropique. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui vont dans ce sens-là, qui sont cohérents avec ce réchauffement. Le fait qu'on ait un refroidissement dans la stratosphère, le fait qu'on ait des modifications très fortes des régions polaires, effectivement, qui se manifestent autrement que par ces relevés de température qu'on pourrait juger incertains. Ça, c'est la décroissance de la banquise dans l'hémisphère nord en fin d'été au fil des années. Il y a le relèvement du niveau de la mer, dont j'ai pas gardé le transparent, j'ai essayé de l'élaguer un peu. Donc on a un certain nombre de choses qui nous donnent le sentiment qu'il y a une correspondance forte entre ce que prédisent les modèles et ce qu'on observe. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est aussi de poursuivre cette évolution en regardant ce qui va se passer dans le futur. Et là, on est lié beaucoup à la physique des modèles, parce que on pourrait penser que, je vais revenir à ce diagramme, on pourrait penser que finalement les modèles ici, sur cette part qui va jusqu'en 2010, y reproduisent assez correctement ce qu'on observe, et donc, bon, par continuité, ils vont aussi, ceux qui feront le meilleur travail dans cette période-là, sont ceux qui seront aussi le meilleur travail un peu plus tard dans le 21e siècle. En fait, les choses ne sont pas si simples, parce qu'on a deux problèmes qui s'opposent et se mélangent les uns aux autres. Le premier, c'est celui de ce qu'on appelle la sensibilité du climat. La sensibilité du climat, c'est le fait que si on double, alors c'est la mesure traditionnelle, si on double le CO2 de manière instantanée et puis qu'on regarde le climat d'équilibre, on a un changement de température. La première estimation, c'était en 79 par Charnay, et c'était de 1,5 à 4,5 degrés. Là, c'est des modèles qui correspondent au deuxième et troisième rapport du GIEC, et puis actuellement, on est toujours là. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une incertitude qui est très grande et qui relève de processus de rétroaction interne au système climatique qu'on maîtrise pas. Alors, la difficulté, c'est qu'on peut parfaitement avoir un modèle à forte sensibilité ou un modèle à faible sensibilité qui soit cohérent avec la période restante, parce qu'on ne connaît pas très bien les émissions d'aérosols. Donc, si on a un modèle à forte sensibilité et qu'on a beaucoup d'aérosols, donc on peut effectivement suivre cette trajectoire-là. Si on a un modèle à faible sensibilité, mais qu'on fait l'hypothèse que finalement il n'y a pas beaucoup d'aérosols, on va suivre aussi cette même trajectoire. Et il y a des diagnostics qui ont été faits par Jeff Keel sur un ensemble de modèles qui montrent que c'est un petit peu ce qui se passe. Les modèles, ils sont ajustés pour essayer de suivre la période initiale, et donc ceux qui ont une forte sensibilité ont aussi des aérosols qui sont un peu différents. Et alors, petit à petit, ces choses-là s'encadrent un petit peu mieux. Il y a des scénarios d'émissions d'aérosols qui sont recommandés, mais ça reste encore une vraie difficulté, parce que dans les faits, on n'a pas d'observation très, très précise de ces problèmes-là. Mais ça veut dire que notre appréhension du futur, elle ne va pas beaucoup se guider sur ce qui va se passer dans les premières années, mais vraiment sur une appréhension de la physique. C'est la physique des rétroactions qui va être le guide. Alors, cette physique des rétroactions, on a quand même des guides pour la... Et là, je parle du tout le temps de rentrer là-dedans. On a des guides pour essayer de l'appréhender. Ce sont les fluctuations naturelles du climat. Les fluctuations qui sont liées au cycle annuel, par exemple. C'est un exemple de changement climatique le plus simple, le plus facilement mesuré, ce qui est lié à El Niño, la Niña. Alors, c'est des changements climatiques qui sont différents en termes de modification de la dynamique atmosphérique, mais on peut penser que les rétroactions thermodynamiques qui sont vraiment les rétroactions liées à la vapeur d'eau, liées aux nuages, qui sont la cause de ces différences de sensibilité, on pourra les diagnostiquer. Ce qui manquait beaucoup pour faire ces diagnostics-là, sauf pour les problèmes de vapeur d'eau, c'était des données, c'est-à-dire que les nuages agissent sur le système climatique par une multiplicité de paramètres qui n'étaient pas tous mesurés. Depuis 3 ou 5 ans, enfin ça dépend, les satellites ont été lancés les uns après les autres, on a maintenant un volume de données qui est en train de croître de manière considérable. Vous avez ici ce qu'on appelle la constellation Aqua, avec des satellites. Alors celui-là c'est le Lillois, celui-là c'est celui qui est un peu LMD, un peu NASAR, c'est Calypso. Puis vous avez d'autres satellites qui mesurent différents paramètres de l'atmosphère, qui se suivent sur la même orbite avec quelques minutes, je crois, d'écart, et qui mesurent essentiellement les mêmes scènes nuageuses. Donc toutes ces données se stockent, et toutes ces données commencent donc à créer une histoire sur laquelle on peut regarder des fluctuations naturelles, des rétroactions, valider les modèles. Donc c'est un travail qui est en train de se faire, et qui se fait avec un retard considérable par rapport au moment où on a identifié que c'était les nuages la cause des incertitudes, mais bon, qui n'est pas fait. Et donc en termes de communication avec l'extérieur, on est toujours confronté à ces mêmes incertitudes que j'ai mentionnées. Alors, il y a une autre cause forte d'incertitude qui est liée cette fois, et je pense que Laurent Théré va en parler ensuite longuement, donc je ne vais pas en parler moi-même très, très longuement, mais je pense que pour essayer, si on veut dresser un tableau des incertitudes, je pense que c'est très important d'attirer l'attention aussi sur le fait que, pour moi, il y a deux grands modes d'incertitude du côté atmosphérique. À chaque fois, c'est lié à une mauvaise appréhension des mouvements de l'atmosphère. On a une idée de ce qu'est le chauffage thermodynamique, ce qu'est le chauffage radiatif, comment est-ce qu'il met en jeu des mouvements de l'atmosphère et comment ces mouvements de l'atmosphère modifient la réponse. On a des difficultés avec deux types de mouvements, tous les mouvements qui sont les mouvements verticaux qui créent la sensibilité climatique en créant les nuages, en diffusant la vapeur d'eau vers le haut, c'est un petit peu tout ce que j'ai balayé de manière simple jusqu'à présent. Puis il y a une deuxième classe de mouvements qui peuvent changer dans un changement de climat, c'est les grandes circulations atmosphériques. Alors il se trouve que, et je pense que c'est pour ça qu'on a pu dire des choses même de plus longtemps sur le changement climatique, il se trouve que tout ne change pas dans les circulations horizontales du climat. On a des cellules de Hadley où l'air monte à l'équateur, où l'air descend dans les régions subtropicales, où c'est avec des grandes circulations qui sont en fait dans leur globalité peu affectées par le changement climatique. Quand on regarde les simulations climatiques en réponse à une augmentation du CO2 et des gaz à effet de serre, la limite des cellules de Hadley, c'est une limite qui peut changer d'un degré peut-être, donc d'une centaine de kilomètres. Donc c'est assez peu. Le fait qu'on ait en fait une séparation entre les domaines intertropicaux et extratropicaux qui soit relativement stable, c'est ce qui a permis de très tôt de dire des choses sur le changement climatique, des choses qui ont duré, qui sont. Et donc tant qu'on ne touche pas trop à cette dynamique, on a une faculté de diagnostic qui est réelle. Et on voit ici que les modèles prévoient, alors c'est les couleurs, c'est la moyenne des modèles, en termes de changement de précipitation en hiver, décembre, janvier, février, ou en été, juin, juillet, août. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les modèles sont. Il y a un signal très clair, en fait, très cohérent, qui émerge de l'ensemble des modèles, qui est plus d'humidité à l'équateur. Au contraire, dans les zones de descente des cellules de Hadley, on a plus de sécheresse. Et on a à nouveau plus d'humidité au moyen de latitude. Alors, ça, c'est quelque chose qui est le reflet du fait que les cellules de Hadley ne changent pas beaucoup de position et qu'elles vont plutôt changer de caractère en termes de cycle de l'eau, être plus humide à l'équateur, parce qu'il fait plus chaud et qu'il y a plus de condensation, et plus de convergence des condensations d'eau, plus sèche dans ces régions de descente de l'air. Tout ça s'explique. Et il y a une certaine cohérence physique qui est là depuis les débuts aussi. C'est-à-dire qu'on a depuis les débuts. Ce schéma avec plus d'humidité à l'équateur, plus de sécheresse de part et d'autre, plus d'humidité encore. Et on commence à l'observer quand on fait des moyennes en longitude dans la durée. Maintenant, ce que montrent les pointillés, c'est l'accord entre les modèles en termes de signes. Et donc c'est un signal un petit peu différent de la moyenne. C'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment une unanimité pour donner des tendances. On voit que toutes les régions, il n'y a pas de points, ce n'est pas le cas. Donc c'est des régions où tout ce qu'on sait dire finalement, c'est qu'il va peut-être pleuvoir ou plus ou moins. Et c'est des régions où l'appréhension en termes de diagnostic est très complexe. Alors, encore une fois, je pense que... Donc là, vous pouvez l'illustrer, enfin, on prend toujours les deux modèles français, CNRM et PSL, parce qu'ils sont assez différents justement sur le Sahel ou sur la mousson, pour illustrer ça. Je vais juste faire un commentaire à ce niveau-là, mais c'est un commentaire qui est très rapide et qui sera repris de façon détaillée autrement. Je pense que et c'est le domaine de connaissances sur les situations météorologiques qui a énormément progressé dans les dernières années, mais c'est vrai que tout le domaine des échelles intermédiaires, le domaine des échelles des moussons, des grandes structures qui sont continentales, qui sont est un domaine qui est un domaine où on a beaucoup d'objets en fait qui sont complexes et qui vont réagir chacun de leur manière au réchauffement climatique. Donc c'est normal qu'on ait beaucoup de difficultés à assembler ça. Alors moi, le domaine que je connais peut-être le mieux dans ce cadre-là, c'est peut-être l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est particulière parce qu'on a plutôt une augmentation en été des précipitations sur la région de la Plata, et qui est une région où on a mis des terrains en culture nouveaux avec des paysans qui se sont installés. Et quand on regarde de quoi dépense, et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pérenne ou est-ce que dans 5 ou 10 ans, tout ça va être touché par une sécheresse ou un retrait des précipitations? Donc est-ce qu'on est face à une tendance, on est face à une fluctuation? Et les modèles sont montre aussi une augmentation future des précipitations, mais pas de manière unanime. Mais on peut, et je pense que c'est un travail qui peut se faire sur chaque région du monde, on peut essayer de trouver les acteurs. Les précipitations ici, ça dépend des grandes structures, des grandes cellules de Hadley, ça dépend des températures de l'océan Atlantique ou Pacifique, ça dépend de la Saxe, la convergence, zone de convergence Atlantique Sud qui se met en place, ça dépend aussi de structures donc de Rossby qui vont d'un côté à l'est à l'autre du Pacifique. Et quand on regarde comment toutes ces structures changent dans un changement de climat, on voit qu'il y a certains modèles qui s'en sortent mieux que d'autres au niveau des fluctuations naturelles et qui sont aussi plus cohérents dans la réponse qu'ils donnent au niveau de, entre les uns entre les autres, au niveau de la réponse future. Et donc on peut commencer à regarder ces choses-là, mais c'est à chaque fois un travail qui est un travail qui doit être fait pour des régions spécifiques, parce qu'on touche justement à ces changements de dynamique atmosphérique qui sont toujours des changements qui mettent en jeu beaucoup d'acteurs quand on regarde une région donnée, et chacun de ces acteurs peut réagir à sa manière au changement climatique. Alors je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il y a une approche qui est utile, qui est intéressante, mais qu'il faut bien encadrer, qui est celle qui consiste à dire on prend un modèle ici, un modèle régional, ça a été fait sur l'Amérique du Sud, ça se fait ailleurs, on va le forcer par les conditions limites et on va avoir une réponse climatique locale. Si on fait ça, il faut avoir conscience que le forçage aux conditions limites dépend de tous les acteurs dont j'ai parlé ici, de la manière dont ces acteurs vont jouer, et puis de la rétroaction du climat local sur ces acteurs. Donc on est face à un problème qu'on peut commencer à déchiffrer, mais qui est complexe. Alors, j'ajoute que quand on regarde des choses très simples, l'importance des cellules de Hadley dans les modèles, alors ça c'est ceux de... Je n'ai pas refait ça dans les résultats récents de la R5, c'est quand même la capacité des modèles à simuler des choses simples comme l'intensité des cellules d'année n'est pas encore parfaite. Voilà, alors, je ne sais plus où j'en suis, parce que je ne sais pas où j'ai démarré. Ouais. Donc, ce que je voulais souligner aussi, c'est bien sûr l'importance des autres processus. J'ai beaucoup focalisé sur l'atmosphère, ce que je connais. Je crois que c'est la source de beaucoup d'incertitudes. Bien sûr, au fil des années, donc ça c'est le petit graphique qu'on a fait pour le dernier rapport du GIEC, les modèles sont passés de modèles atmosphériques à des modèles qui sont des modèles couplés au sein de l'atmosphère, avec l'hydrologie, avec une représentation de la végétation qui est beaucoup plus détaillée, avec chimie atmosphérique. Voilà. Donc c'est des modèles qu'on appelle modèles du système Terre, un peu abusivement, parce qu'il n'y a pas la Terre très profonde dedans, mais c'est des modèles qui deviennent plus complexes, qui ont changé de nature. Ils ne s'appuient plus vraiment sur des lois fondamentales. Je pense que ça, ils s'appuient sur des lois qui sont fortement empiriques. Et cette nature de modèles fortement appuyée sur les observations est un changement, je pense, en termes de d'utilisation des modèles. C'est plus des outils experts, c'est des outils qui agrègent des savoirs divers, alors que les modèles de circulation, c'est des modèles qui ont toutes les incertitudes dont je viens de parler, mais c'est des modèles qui s'appuyaient plus sur des lois fondamentales que nous font les modèles. Alors il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Moi je vais juste en citer quelques-unes. On pourrait parler des équilibres multiples éventuels dans l'océan. Toutes les systèmes lent dans le système climatique joue un rôle à l'échelle du siècle qui vient. Dans les systèmes lents, il y a bien sûr la végétation. Ça, c'est des simulations qui sont déjà un petit peu anciennes, mais qualitativement posent des problèmes qui sont toujours là. C'est la réponse de modèles écologiques qui sont des modèles écologiques très simple, où il n'y a pas vraiment d'écologie, il y a plus de la physique et de l'adaptation de la végétation à des paramètres physiques, et qui montre qu'on a une évolution de cette végétation qui peut être très contrastée avec, alors ça c'est la réponse au climat qui se réchauffe, avec une disparition de la végétation, en tout cas une diminution de la végétation dans les régions de basse latitude, une augmentation dans les régions de haute latitude. Alors
ce que je sais, et que je sais très peu en fait sur la manière dont ces choses-là ont évolué depuis, mais c'est ce diagramme que m'a donné Philippe Sier, qui essaie de regarder ce qu'est la sensibilité du climat quand on ajoute ces processus-là. Et ce qu'on voit, c'est que la sensibilité du climat, alors là, la sensibilité de Charney, on a vu, c'était de 1,5 à 4,5, donc c'est 3 degrés Celsius pour un doublement du CO2 si on moyenne sur l'ensemble des modèles. La sensibilité potentielle qui est associée à tous ces processus biologiques qu'on a toujours pris comme des espèces d'additions au système, alors c'est une sensibilité qui s'exprime à plus long terme, c'est des évolutions à plus long terme, bien sûr. Mais c'est une sensibilité qui peut conduire à une augmentation presque équivalente du réchauffement. Alors il y a des cycles que je ne connais rien, comme le cycle de l'azote, qui sont des éléments importants dans ces dynamiques-là, mais on n'est pas du tout au bout de l'appréhension de ce que sont les incertitudes. Alors ça, c'est pour illustrer un fait, c'est que les incertitudes, c'est toujours vu comme un phénomène rassurant. Il y a aussi des incertitudes qui sont plutôt des incertitudes. Enfin, il y a des incertitudes qui devraient être prises comme des risques très forts. Et je pense que collectivement, on a beaucoup de mal à tenir un discours sur ces incertitudes qui sont potentiellement catastrophiques, qui ne sont pas encore étayées par une science bien unanime et bien appréhendée par tout le monde. Mais qui se pose par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu'on fait déjà malgré tout dès maintenant. Voilà, alors juste un mot, mais je sais que ça sera traité là aussi ensuite, et donc je ne vais pas y revenir, enfin je ne vais pas détailler, pour dire que il y a une conscience bien sûr très forte que les évolutions moyennes du climat dont j'ai parlé, ce n'est pas celles qui font les dangers majeurs, et que les dangers majeurs, ça vient de ce qu'on appelle des événements extrêmes. C'est souvent dans des manifestations de fluctuations anormales du climat qu'on a des événements majeurs. Et ça pose des problèmes qui ont été résumés par un diagramme qui est compliqué, mais que je trouve très, très bien fait dans le dernier rapport du GIEC dédié aux événements extrêmes, où on dégage trois types de problématiques. Celle sur les événements eux-mêmes qui peuvent survenir, sur l'exposition à ces événements, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, si ces événements touchent surtout des côtes, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les régions côtières? Et puis la vulnérabilité, c'est qu'est-ce qu'ils sont capables de produire en termes de conséquences sur les régions à risque. Et je pense que cette notion de vulnérabilité en particulier, c'est une notion très, très forte. J'imagine qu'elle va revenir tous les débats que vous aurez, parce que, je ne vais pas montrer ce diagramme, mais plutôt celui-là, parce que je crois qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on peut dire très simplement, en compliquant toujours les modèles. Et je pense qu'il y a vraiment une phase maintenant, qui est une phase un peu de retour en arrière, où on a besoin de regarder des terrains, on a besoin de s'ancrer sur des territoires, et puis de regarder en quoi ils sont globalement vulnérables à des changements qu'on n'arrivera jamais à qualifier de manière complète. Alors, vous avez ce travail qui a été fait sur l'eau, sur les écosystèmes, cette classification d'un ensemble d'études de vulnérabilité qui a été faite par le groupe 2 du GIEC il y a 5 ans, qui est en train d'être refaite maintenant, sur l'eau, les écosystèmes, la disponibilité de nourriture, les problèmes côtiers, la santé. C'est à chaque fois une manière d'essayer de faire de l'interdisciplinarité, mais à échelle locale, en regardant vraiment comment les problèmes se mêlent les uns aux autres, et à relier ça à ce qui peut survenir au niveau global. Alors là, c'est résumé par un chiffre qui est le chiffre du réchauffement global, et c'est ce qui nous donne d'ailleurs le fait qu'au-delà de 2-3 degrés, ben, on a des changements plus importants, et ça justifie a posteriori le choix de 2 degrés comme seuil à ne pas dépasser. Mais je pense que cette attitude d'exploration de la vulnérabilité, c'est probablement une des avenues, enfin c'est même très certainement, je pense que c'est une idée qui est devenue maintenant commune, c'est un des domaines dans lequel on explorera, je pense, plus facilement tous les problèmes d'interdisciplinarité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est des choses très, très générales. Bon, vous allez revenir sur tout ça en détail par la suite. Voilà.
Merci. On va voir. Alors, des questions dans la salle. Des précisions, Katia? Là, tiens, je suis prête, je me passe.
Ça marche, oui.
Oui,
si vous pouvez. Bonjour, Katia Laval, professeure émérite à l'UPMC et puis au LMD. Et j'appartiens au LMD et à l'IPSL. Je voudrais poser la question sur ce qu'on appelle le trou de réchauffement qui se situe dans le bassin du Mississippi. J'ai vu qu'il apparaissait dans l'IPCC, dans le dernier, je ne sais plus, la R4, je pense, et son interprétation. Parce que dans le schéma que tu as montré, dans le graphique que tu as montré, il n'apparaissait pas, mais je pense que tu as pris des moyennes en octobre-novembre. Et j'ai vu des moyennes.
Quand tu parles de.
La variation de température qu'on a observée entre les moyennes. Années 1950 et 2000. Et j'ai vu des interprétations de ce trou de réchauffement sur la région du Mississippi qui étaient diverses et je voudrais avoir ton point de vue là-dessus.
Alors, bon, je ne suis pas bien capable de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que les. Enfin, ce que je peux dire, c'est que les ce que j'essaie de dire au début, peut-être Robert répondra ensuite, c'est que on est quand même dans une période de l'histoire du réchauffement climatique où les fluctuations naturelles sont fortes encore par rapport aux fluctuations anthropiques. C'est vraiment ce que j'essaie de dire au début parce que je pense qu'on oublie beaucoup ça. On est au tout début d'un processus dont on craint l'amplification future, on a bonne raison de le craindre, mais le stade actuel, c'est quand même un stade où on a un mélange de fluctuations naturelles, ce mélange de variations anthropiques. Alors, j'ai vu ces débats, moi j'avais plutôt compris ça comme enfin, c'est quand même un domaine relativement restreint, le Mississippi. Donc, j'ai lu ces débats et j'ai pas retenu l'essence de ce qui était contesté. Ça ne me choque pas du tout, moi, qui ai des régions du monde qui se refroidissent.
Non, c'est pas du tout une réponse à cette question. Donc, Robert Botard, c'est plutôt une autre question. Désolé.
Non, mais c'est
oui, donc tu mentionnes la question des compensations d'erreurs, finalement, entre les aérosols et les gaz à effet de serre.
Il faut que je parle.
Voilà, la question des compensations d'erreurs. Donc c'est effectivement un sujet central pour le futur, c'est de bien comprendre quelles sont les erreurs qu'on est à même, les grosses, hein, qu'on est à même de compenser. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes, enfin qu'est-ce que tu vois comme direction de meilleure compréhension de ce type potentiel de compréhension dans d'autres processus entre la sensibilité des gaz à effet de serre et d'autres phénomènes.
Tu fais allusion à quel type d'autres phénomènes
Non, je pensais, non, on discutait, on bavardait avec Katia, on pensait aux nuages, bien sûr. Donc est-ce qu'il y a d'autres travaux qui ont été faits sur ce type de choses? Mais il y a d'autres. Il n'y a pas que les nuages.
Hein. Disons, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est de grouper les processus en deux grandes catégories. Mais bien sûr, on pourrait faire un affiner. Donc il y a la catégorie de tout ce qui est lié aux gaz à effet de serre et aux rétroactions suscitées par les gaz à effet de serre d'un côté. Et puis il y a ce qui est lié aux aérosols. Et c'est vrai que les aérosols ont aussi des rétroactions qui leur sont associées. Et qu'on a tendance à se séparer alors qu'elles sont partiellement les mêmes, donc le processus est en fait un petit peu plus complexe. Ce que je voulais dire, c'est que c'était quelque chose qu'on constate, et que tu dis, est-ce qu'il y a d'autres cas où c'est étudié, justement, ce n'est pas très étudié, ce processus de compensation. Parce qu'il y a un phénomène social. Moi, je suis resté, ce n'est pas une réponse directe, mais c'est pour expliquer ce que je veux dire, très marqué par les premières comparaisons, les premières estimations de sensibilité entre modèles qui avaient été faites par Bob Sess dans les années, début des années 90. Donc tous les modèles faisaient 2 degrés de réchauffement, et puis on regardait la variation du bilan de rayonnement sommet de l'atmosphère comme un facteur de rétroaction. Et c'était fait en global, c'est-à-dire rayonnement solaire plus rayonnement infrarouge. Et donc on fait l'exercice, et puis il y avait une dispersion entre modèles absolument considérable. Donc on commençait à avoir des débats, de discuter, et au bout d'un ou deux ans, la dispersion s'est réduite. Il y a une espèce d'accumulation vers le chiffre médian. Alors moi, je n'avais pas refait mes calculs, plus par paresse, j'étais à l'extérieur. Et puis, Mopsès a eu l'idée cette fois de faire un diagramme où il séparait la partie solaire et la partie infrarouge, et il y avait la même dispersion qu'avant sur la partie solaire d'un côté, la partie infrarouge terrestre de l'autre. Ce qui veut dire que c'est la pression sociale, la pression des pairs qui avait fait que tous les chiffres s'étaient rassemblés vers le chiffre médian. On est toujours sous la menace de quelque chose comme ça, et c'est très difficile de savoir le dire. Moi, je suis très frappé quand même par le fait qu'on soit resté pendant autant d'années entre 1,5 et 5 degrés à peu près. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des modèles qui vont en dessous, qui vont dessus? Est-ce que c'est vraiment parce que ces modèles-là sont très irréalistes, ou c'est parce que quand quelqu'un a un résultat qui est un petit peu au-dessus ou en dessous, il se dit « Oh là, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans mon modèle ». Donc il cherche, il trouve quelque chose qui ne va pas dans son modèle. Donc je pense qu'effectivement, ces phénomènes de pression sociale, ils existent probablement dans un peu tous les domaines. Je pense que les rétroactions liées à la végétation, elles se sont établies avec un certain signe dès le début. Et comme l'impression que ce signe se maintient, je ne sais pas ce qui serait passé s'il s'était établi avec un autre signe au début. Enfin, j'ai toujours ces doutes-là.
Annie,
il y a
derrière et puis après Alain.
Donc Marie-Hélène Gargotte, je suis à Grosup Dijon. En fait, j'ai une question de non-climatologue. J'aimerais que vous précisiez un peu cette notion de sensibilité, parce que vous parlez de sensibilité du climat ou de sensibilité des modèles, et j'ai l'impression que c'est un terme clé.
Oui, alors j'aurais peut-être pu le dire, j'ai dit très vite. La plupart des modèles du début des années 70 n'étaient capables que de faire deux choses, c'est-à-dire regarder le climat actuel et puis regarder un climat très différent, un climat d'équilibre très différent. Et ce qui avait été choisi, c'était un climat de doublement de CO2, parce que c'était en gros l'échéance qui paraissait intéressante comme caractérisation de ce qui pouvait se passer. Et c'est resté une espèce de manière de caractériser les modèles au fil des années, c'est-à-dire que le réchauffement d'équilibre, celui qu'on atteint, comme si on double le CO2 puis qu'on attend qu'on ait un équilibre, ce réchauffement d'équilibre, un doublement du CO2, est appelé la sensibilité du climat. Et c'est le diagnostic pratiquement le plus ancien qu'on ait par rapport au réchauffement climatique. Parce que des premiers modèles, il ne reste finalement plus grand-chose, parce que les cartes perforées ont disparu depuis longtemps, on ne sait pas les refaire tourner, mais on a toujours ces réchauffements d'équilibre. Donc on peut comparer des histoires des modèles à travers ce diagnostic commun. Alors, quand on regarde les évolutions du climat sur le XXe siècle, on a des évolutions transitoires. Donc la dispersion des modèles se fait plus progressivement. Et ce serait, si on allait jusqu'à un équilibre, qu'on aurait le total de cette dispersion. Donc, sur ces variations d'équilibre, ces sensibilités, on a une dispersion plus grande que celle qu'on a quand on regarde une histoire de l'évolution climatique.
Merci. Donc, Amy Dahan, moi aussi, c'est une question de non-climatologue. Je suis dans le laboratoire Cogéré, donc plutôt sciences sociales, changement climatique. Tu as mentionné à propos des événements, le rapport SREX, le dernier rapport sur les événements extrêmes, et je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu as dit un peu comme ça à la fin d'une phrase. Aujourd'hui, on est arrivé au bout des modèles, peut-être au bout des modèles, il faudrait revenir en arrière, et il y a une nécessité de revenir au terrain, tu peux dire quelque chose comme ça, pour regarder des questions de plus larges, quoi, l'eau, les écosystèmes, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? C'est-à-dire, à un moment où, j'ai un étudiant qui vient de revenir d'Arizona, où c'était la grande conférence un peu analogue à celle du WCRP il y a quelques mois, mais un peu sur les questions de la communauté, de l'adaptation, etc., qui veut se prendre en main et qui veut organiser les choses. Et donc, je me demandais si, qu'est-ce que tu voulais dire par sur ces questions, les modèles ont été un peu au bout de ce qu'on pouvait dire, et voilà.
Voilà. Mais merci, parce qu'effectivement, j'étais un bout de temps, et j'ai hésité à ouvrir un paragraphe un peu plus long là-dessus. Donc, je pense que effectivement, il y a eu quand même dans tous les gens qui ont participé à la première phase de construction des modèles, l'idée qu'on allait rajouter des processus, améliorer les modèles, les rendre plus précis, et c'est pas si simple. C'est-à-dire que quand on complique les modèles, on a effectivement des modèles plus complexes et qui donnent des résultats qu'on ne maîtrise pas complètement. Et donc, d'autant plus qu'une partie de ce qu'on a rajouté est une partie qui est, comme on dit tout à l'heure, empirique, dont on ne sait pas exactement la validité qu'elle a dans un climat différent, etc. Donc on a rajouté beaucoup d'incertitudes, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un savoir. C'est un savoir qu'on doit transmettre, c'est une expertise qu'on a, mais c'est quelque chose qu'on doit manipuler avec un peu de soin. Parce que, je pense que la manière de manipuler ça avec un petit peu de soin, c'est effectivement de s'ancrer souvent dans des régions particulières où on regarde effectivement à la fois ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, la manière dont ça se lie à d'autres paramètres, les conséquences, et on est capable aussi de porter un jugement un peu plus qualitatif parce qu'on a exploré, j'essaie de le dire rapidement, les différents mécanismes qui jouent à une échelle régionale. Donc je pense que ces études où on essaie de s'ancrer sur des régions pour essayer de regarder leur vulnérabilité, elles vont devenir nécessaires. Je ne crois pas trop au fait que, et ça c'est tout le débat sur les services climatiques, on peut distribuer des résultats, mais si on distribue des résultats sans avoir aussi une distribution d'expertise associée, si on n'a pas un discours qui nous lie aux gens, on risque de faire des bêtises. Et, discuté hier soir avec quelqu'un du conseil d'analyse économique qui fait une espèce d'interview de différentes personnes qui est effectivement dans le domaine économique qui était frappé par le fait que 95% des modèles sont très déterministes. On prend un modèle, la moyenne du modèle, c'est un résultat, et puis on applique ça à des constructions économiques. Et en fait, on sait bien que l'incertitude, c'est une très grande part. Si on a un climat qui devient presque toujours plus sec, mais que de temps en temps il y a des grosses inondations, en termes d'adaptation de la forêt, des cultures, c'est pas pareil que si on retient la sécheresse moyenne. Donc toute cette exploration, et ça demande une exploration soigneuse locale. Enfin, je ne vais pas vous le dire plus que ça, mais c'est plutôt une manière de me démarquer d'approche trop simple de l'utilisation des résultats des modèles. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout des modèles, hein, ça veut dire qu'on n'arrivera pas par contre à faire des modèles qui nous fasse une prédiction fiable, sans incertitude, ça je pense qu'on ne devra pas y arriver.
Une dernière question, parce qu'après je pense qu'il faut qu'on passe à la suite.
Oui, Denis Belli, je suis économiste à l'Université de Brest et je travaille sur des problématiques littorales. Et donc moi je suis assez convaincu de ce qu'a dit Hervé Le Treut sur cette... Ce découplage, il ne faut pas attendre d'avoir des prévisions de modèles assez fines au niveau régional pour commencer à s'engager. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir votre... d'aller un petit peu plus loin sur ce que vous venez de dire sur ce concept de service climatique entre le concept de service climatique tel qu'il est vendu au niveau international et ce que nous, on voit sur le terrain, c'est-à-dire une demande de la société de travailler avec nous, avec la recherche, pour réfléchir à l'adaptation, parce que on voit, au travers des événements extrêmes, des changements dans les écosystèmes, la société prend conscience de ce phénomène et de ses impacts. Et en quoi ce qu'on nous demande peut rentrer dans le concept de service climatique, ou c'est autre chose ?
Alors, je ne suis content de ne pas être seul à éventuellement répondre à cette question, parce que c'est des choses qui sont débattues en ce moment, fortement. Mais oui, je pense que ça rentre, c'est-à-dire, je pense, c'est ce que j'essaie de dire, que on ne peut pas, dans un service climatique, se contenter de donner des chiffres, on doit donner une expertise. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi un problème d'organisation. Nous, on est des laboratoires de recherche, on est là pour faire de la recherche. On n'est pas organisé pour délivrer de l'expertise à des centaines d'acteurs sur le territoire national. On se rend compte que si on pouvait faire des sites web et puis retourner à notre recherche, on serait dimensionné à la limite pour ça. S'il faut donner plus que ça, donner une expertise intelligente, un savoir qu'on transmet de manière un peu plus personnalisée, ça devient très compliqué. Donc, on est confronté à cette difficulté-là. Je ne sais pas si on a bien résolu pour le moment.
On est vraiment dans un système en construction.
Tu veux juste intervenir après, on est presque plus dans le débat. On
pourra avoir encore un peu plus de temps. Qu'il y a une réflexion au niveau national sur cette question-là en ce moment. Et voilà. Donc, c'est un débat en cours. Et on espère d'ici la fin de l'année avoir une.
Je pense qu'on
peut. J'ai quelque chose à ajouter. Tu restes avec nous cette matinée ou...
La matinée, mais l'après-midi.
On prendra la tête une question qui me brûle les dents depuis en fin de matinée, puisqu'il y a une discussion.
Sauf qu'on la mange un petit peu
alors,
maintenant. Vas-y, parce que je ne suis pas sûre qu'elle existera encore à la fin de la matinée.
Avec toute la pratique d'encule sur l'utilisation de la comparaison entre modèles climatiques pour essayer d'approcher l'incertitude, quel conseil tu donnerais à la communauté IVA, impact, vulnérabilité, adaptation, qui y a au moins un courant international qui dit il suffit d'exporter cette méthodologie et puis on arrivera comme ça à mieux préciser les incertitudes.
Quelle méthodologie, tu veux dire?
D'avoir plusieurs modèles pour représenter la même chose et d'utiliser finalement.
Je pense qu'en première approche, il vaut de toute manière mieux avoir plusieurs modèles que quelques modèles. Donc, c'est la première approche, la première évaluation qu'on a de nos incertitudes, c'est les modèles. Ce qu'on peut penser, c'est qu'on pourra peut-être trier un peu mieux, région par région, entre les modèles, dire des choses en plus. C'est quand même la première précaution, c'est de ne pas se fonder sur un seul modèle, mais sur un ensemble de modèles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les laboratoires ont investi tellement dans la participation à ces exercices internationaux qui sont très lourds pour que cette base de données existe et qu'elle soit utilisée justement en mode multimodèle.